Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, I comme ici, les films d'ici, avec Richard Coppens, Marie Dumorat, Nicolas Philibert et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Comme dans les plus fastueuses des productions hollywoodiennes contemporaines, cette émission est la suite d'une précédente, sa préquelle. C'était le 26 mai dernier, alors que l'État fêtait à sa manière les événements de mai 68 en s'essayant au remake des évacuations d'universités et d'embastillements de lycéens, nous avions consacré un plan large au cinéma militant des années 60-70. L'émission s'arrêtait à la dissolution des collectifs d'intervention cinématographique et à la création en 1978 d'une structure appelée à un avenir des plus productifs. Quelques 900 films plus tard, les films d'ici fêtent leurs 40 ans chez leur aîné d'un an seulement, le Centre Pompidou, dans le cadre de la Cinémathèque du documentaire. Comme dans les plus fastueuses des productions hollywoodiennes contemporaines, Plan Large reçoit donc ce jour des super-héros et héroïnes, de ceux qui ont contribué à ce qu'en France on considère enfin le documentaire comme du cinéma à part entière, souvent plus riche en émotions et en humanité que la plupart des fictions. Trois générations de cinéastes, on avait déjà suivi les aventures du premier dans l'émission de mai précitée, Richard Coppens, chef opérateur, réalisateur et donc producteur avec des films d'ici, de nombre des plus grands auteurs d'aujourd'hui en France comme à l'étranger, le responsable avec Être et Avoir d'un des plus grands succès d'un documentaire en salle qui fête cette année lui aussi ses 40 ans de cinéma avec un nouveau film de chaque instant et une rétrospective en salle évidemment de 9 de ses films en version restaurée, c'est Nicolas Philibert. Et enfin, une grande exploratrice du temps et d'un territoire alsacien de quelques kilomètres carrés qui donne à ce qu'elle filme la dimension des plus grandes stars de l'histoire du cinéma et fait, elle, ses 20 ans derrière la caméra, Marie Dumorat, dont on a tant aimé en janvier le nouveau film Belinda et qui fait l'objet ce week-end d'un focus au Centre Pompidou. Last but not least, Charlotte Garçon, qui était également au casting de notre préquel de mai, reviendra en fin d'émission 80 ans en arrière pour évoquer l'année 1937 du grand cinéaste méconnu qu'est Léo McCarré, objet ce mois-ci d'une rétrospective à la Cinémathèque française. Mais à présent, il est temps de prendre la route.
Decided to come back together. We've been away a long time, 10 years. Doc in Africa, me in Europe, making movies. Doc's Africa was war, bombed out hospitals, cities burning in the sun. He never talked about it. Coming back is what we said, not home, but back. Back there, behind you, the origins, the start. I was born in the shadow of the Empire State Building. I know the Empire City. I didn't want to start our trip there. Let's go north, I said to Doc. All the way north, Doc, into the country, to the Canadian border, to where Route 1 starts, and then make our way down the coast, through the old colonies, the old capitals, the states of our growing up. Try to follow this road all the way down to the end in Key West. Let's go.
Vous reconnaissez cette voix, Richard Coppens ?
C'est la voix de Robert Kramer, bien sûr, un cinéaste avec qui j'ai eu la chance de produire et de travailler, de faire l'image, d'être assistant, enfin d'accompagner tous ses films entre 1980 et 1999 quand il est mort d'une méningite. Je l'avais rencontré fin 79. Une productrice de l'INA nous avait fait rencontrer en pensant que moi à moitié américain, lui américain, disons à l'époque expatrié, lui d'extrême gauche, moi aussi, et ben on aurait des choses à se dire. Elle avait raison, Hélène Vagé, et donc on ne s'est plus quitté après.
Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est Route One USA, hein, sans doute une des productions les plus mythiques des films d'ici, un film monstre, 4h30, mais il faut bien ça pour aller du nord au sud des États-Unis en prenant la route numéro 1. C'est un film finalement qui symbolise aussi ce passage du cinéma militant au documentaire d'auteur. C'est Robert Kramer était le modèle pour tous les collectifs dont on avait parlé en mai avec les newsreels qu'il pratiquait aux États-Unis et Route One USA et les quelques films qu'il y a eu avant quand il était en France, c'est un peu le moment où Robert Kramer se rend compte que peut-être ce qui compte, c'est pas tant de vouloir changer le monde, mais déjà de le comprendre.
Oui, disons que ça c'est un résumé un petit peu rapide.
C'est un peu lapidaire.
Quand Robert arrive en France, d'abord on le connaît, il est très connu puisque dans les années 70 sont sortis en France Ice, The Edge et surtout Milestones en 76, qui est un film tout à fait étonnant et où déjà il mélange les genres. C'est-à-dire il est documentariste, mais il utilise les gens pour leur faire jouer leur rôle. Il va sans aucun problème d'un territoire à l'autre, parce que pour lui c'est un seul territoire qui s'appelle le cinéma. C'est-à-dire le documentaire n'est pas juste une observation du réel, il y a de l'imaginaire, et s'il faut utiliser de la mise en scène et de la fiction, eh bien, il n'y a pas de règle qui l'empêche. Donc il est ce cinéaste-là, et d'ailleurs dans les années 70, quand on parle de cinéma militant et de newsreel, on se trompe complètement à son sujet. Parce qu'on l'imagine un autre proche de nous, par exemple de Ciné-Lutte ou d'autres groupes de cinéma militant, alors qu'il est déjà complètement ailleurs du point de vue cinématographique. Et quand il arrive en France fin 79, il va d'abord faire plusieurs fictions et essayer même de faire une grosse fiction qui s'appelle Diesel, qui va être un échec
de science-fiction.
De science-fiction, qui va être un échec retentissant. Et c'est ensuite, à partir de 86, qu'il va faire une espèce de retour vers le réel. D'abord avec Doc's Kingdom, où il fait apparaître le personnage de Doc, joué par Paul MacIsaac, et ensuite Route One USA, où le film commence comme un documentaire et devient un mélange d'une trame documentaire, d'une trame fictionnelle, d'un personnage qui revient. Et pour les films d'ici, c'est en 87, c'est les débuts de la 7, et il se trouve qu'il y a trois producteurs, et les trois producteurs sont en train chacun de faire un film absolument majeur. Donc moi, je fais Route One USA avec Robert, qui se tourne en 87-88. Serge Laloux produit La Ville Louvre avec Nicolas Philibert. Et Yves Janot produit Transantarctica, une série de plusieurs films sur une traversée de l'Antarctique par Jean-Louis Etienne. Ce qui fait qu'en 88, par la grâce de trois producteurs entreprenants et surtout de trois auteurs, on apparaît comme une maison, disons, capable d'une énorme diversité, parce qu'entre Transantarctica, La Ville Louvre et Route One, c'est trois univers complètement différents, capable d'aller chercher de l'argent du côté d'une chaîne américaine pour Transantarctica, de développer un film de 4 heures, ou de s'inscrire dans le travail d'une institution où Dominique Paigny vient d'être nommé responsable des productions audiovisuelles avec le président de l'époque, Michel Laclotte. Donc, il y a tout simplement cette idée d'une diversité des approches et des écritures. Il n'y a pas un modèle. Il y a une cohérence qui est l'affirmation de l'écriture, des auteurs. Et puis après, après il y a plein d'auteurs qui ont envie de faire des films. Et il y a une conjoncture qui nous est favorable. La création de la 7, la politique de langue sur le compte de soutien et le développement de la production indépendante. Donc on est au bon moment, au bon endroit. Pourquoi est-ce que nous, nous réunissons des auteurs si différents? Ça, c'est pas à moi d'en parler.
Ah ben ça, on va peut-être le comprendre. Alors, le premier film produit par les films d'ici, si je me souviens bien, c'est Journal de campagne d'Amos Gitaï.
Oui, alors non, le premier film produit par les films d'ici, je suis désolé Antoine, c'est en 78 quand se créent les films d'ici sous la forme d'un GIE dont les statuts ont été écrits par Luc Moulet, c'est un court-métrage de ciné-lutte, fait avec le groupe Femmes de l'usine LIP, et un film qui s'appelle Appalante, d'ailleurs qui va être restauré cette année par la Cinémathèque de Toulouse. Ensuite, le premier auteur important, effectivement, qui va être produit par les films d'ici, c'est Journal de campagne. Nourrit Aviv m'appelle en disant « j'ai travaillé avec un jeune mec pas connu, on a fait des images formidables dans les relations entre la caméra et l'armée. » Et moi, j'avais envie de faire quelque chose sur l'occupation du Liban Sud par Sharon, donc j'étais motivé politiquement. Et j'ai dit « je paye le labo » sans savoir même le nom du réalisateur. Il se trouve que c'était Amos Gitaï et que tout d'un coup, des choses se sont réunies. C'est-à-dire ce que j'avais compris avec Luc Moulet en travaillant avec lui sur « Jeunesse d'un repas », ce que je connaissais du travail de Robert, la manière dont Amos Gitaï apportait un film, il y avait une cohérence, c'est-à-dire c'était la politique des auteurs, c'était du documentaire, sous des formes, et c'était un rapport au monde politique. Alors est-ce que c'était le changer? En tout cas, c'était le comprendre, l'interpréter, donner des armes pour mieux le saisir et peut-être le transformer.
Alors le jeune mec pas connu est depuis devenu le titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France, hein, s'il vous plaît. Il donnera sa leçon inaugurale le 16 octobre. Et puis vous l'avez déjà mentionné deux fois, il y a donc une sorte de figure tutélaire présente au film d'ici depuis ses débuts.
Les plus beaux terris sont mixtes, boisés en bas, minéraux en haut. C'est le plus varié, le plus haut. 260 mètres.
Non, il fait 260 mètres parce qu'il est posé sur un plateau. En fait, il fait 80 mètres au-dessus des champs.
C'est assez pour être le plus haut. Et de ce côté, la descente vers la rivière, 200 mètres plus bas, elle existe bien.
Rien que du sous-bois, on n'y voit rien. Tout le contraire de l'embussard. Ici, il y a l'espace, la grande glisse, l'industrie et la nature, le rouge et le noir, le doux et le dur, le cru et le cuit. C'est le dernier terri à l'est, la porte de l'Orient. C'est le plus beau terri du monde.
Je conteste. Ça, c'est une image du terri de Dourlens.
Le plus beau des terris, c'est bien celui d'Avion. Il stupéfie quand on arrive du sud. C'est le premier terri en 700 kilomètres.
Ah non, le plus beau terri, c'est Méry. Son ciel est génial. Celui d'Avion est sinistre, tout noir.
Voilà, il y a du débat entre l'équipe technique et le cinéaste dans la cabale des oursins de Luc Moulet. Et c'était votre voix qu'on entendait, hein, Richard Coppens. Il me semble, pour savoir quel est le plus beau terril ou terri, comme dit Luc Moulet, en France. Dans la maison, la conception du documentaire n'est pas sectaire, écrivait Luc Moulet il y a 30 ans. C'était pour un premier hommage au film d'ici, en 1994, au Jeu de Paume. En un temps où règlements judiciaires et concordats sont une composante traditionnelle du paysage filmique, poursuit-il, les films d'ici font bande à part. On ne saurait les imaginer un jour en faillite. Voilà qui nous rassure fort, nous les cinéastes qui avons si peur de voir nos films retomber dans les mains de racheteurs ignares et paresseux. Notre employeur, très 68-art, défendra nos intérêts avec la même ardeur que si c'était les siens. Cette façon de procéder rend les films d'ici d'un atypisme assez folklorique. Les films d'ici ne payent pas de mine, poursuit-il encore. Pour les trouver, il faut monter jusqu'à Belleville. C'est le producteur de Paris qui se situe au plus haut niveau, 107 mètres d'altitude. On reconnaît l'auteur de la politique des hauteurs avec un H, c'est la ruche avec un grand R, une ruche infernale. Vous reconnaissez les films d'ici dans cette description, Nicolas Philibert, Marie Dumourat, Nicolas Philibert?
Oui, ce côté ruche, cette idée que c'est un lieu foisonnant où les cinéastes se côtoient, se croisent, se parlent, montrent leurs débuts de films, discutent, se donnent des restes de péloche pour qu'un film puisse se faire. Enfin, oui, je reconnais bien cette description par Luc Moulet. Oui.
Marie Dumourat.
Je la reconnais moins bien parce que je suis arrivée un petit peu après cette effervescence, mais ce que je connais, c'est des coups de fil à 7h du matin avec un producteur, le doigt sur la couture, qui vous répond au garde à vous quand on est à Clermont-Ferrand, qu'il pleut, qu'on est en veille de tournage et qu'on se demande si c'est utile, etc., etc. Ça oui, et c'était très, très, très précieux.
Alors, à revoir un certain nombre de vos films, des films produits par les films d'ici, Richard Coppens, et pas seulement les films de l'Hurluberlu, Luc Moulet, toujours inclassable, burlesque et insolite. On se dit qu'effectivement, il y a eu un moment dans l'histoire de la production et des chaînes de télévision et de la politique publique du cinéma qui a permis ce que d'aucuns ont appelé l'âge d'or du documentaire de création, du documentaire d'auteur, selon les cases dans lesquelles on les range dans les diverses institutions, que vous avez vraiment eu le sentiment qu'il y avait une volonté publique de faire émerger ce genre de cinéma?
Non, c'est plus, comme d'habitude, c'est plus compliqué, et je ne vais pas dire...
Vous faites comme dans le film de Luc Moulet, vous connaissez
oui.
tout le temps.
Oui,
tout
ce que mais je ne vais pas dire, d'abord, je ne peux pas employer l'expression âge d'or, sinon mon camarade Serge Lalou va me donner des coups de poing la prochaine fois que je le rencontre. Donc c'est pas comme ça. Mais il y a effectivement un moment qui est, mais il faut remonter plus haut. Il faut remonter au démantèlement de l'ORTF, tout simplement. Alors, on a l'air d'être dans la préhistoire, on est en 74, l'État décide que le monopole de la radio et de la télévision n'existe plus. Alors, aujourd'hui, on voit que cette question peut concerner la poste ou les trains, mais à l'époque, ce sont les ondes, donc radio et télé. Et à partir de ce monopole de l'ORTF, il crée 7 sociétés. Ça veut dire que ces sociétés vont être alimentées par des sociétés indépendantes qui vont fournir des programmes. Et pendant un moment, disons, personne ne sait très bien comment faire. C'est une question de marché, donc c'est pas une question de simplement de politique publique, et même la politique publique n'a pas prévu ce qui allait se passer. C'est l'arrivée de Jacques Lang, effectivement, et dans les années 80, c'est donc la politique du ministère de Jacques Lang, qui comprend qu'il y a là un enjeu tout à fait important, qui est un enjeu autant économique que culturel, qui est de soutenir ce qu'on appelle la production indépendante. Donc de soutenir l'émergence de sociétés de production, de leur donner les moyens d'agir, d'avoir des financements plus faciles. Donc c'est la création du compte de soutien pour la télévision, la création de l'institut de financement du cinéma et des industries culturelles. C'est le fait que des investisseurs privés décident d'investir dans des sociétés, par exemple le rôle de la Caisse des dépôts. C'est la création même de l'ACET, la société d'édition de programmes de télévision qui deviendra Arte. Tout ça mis ensemble, ça crée un environnement favorable, effectivement. De là à dire que la politique de Lang était de soutenir la politique de création, du documentaire de création, ça c'est certainement pas, je sais même pas s'ils connaissaient le terme. C'est pas dans ces termes que ça se passe. Mais simplement, il se trouve que nous, émergeant de des groupes de cinéma militants et disons des cinéastes politisés, il y a un groupe là qui en 86 crée ce qu'on appelle la Bande à Lumière, une association de cinéastes, de techniciens, de producteurs qui vont se battre pour le documentaire, Bande à Lumière au sens lumière opposé à Méliès. Et donc, effectivement, il y a un mouvement qui veut faire du documentaire et qui se sert de l'environnement économique. C'est à ce moment-là que ça se met en place, à partir des années 85, 86, 90. Et tout ça débouche, y compris beaucoup plus loin, puisque à partir de 90, on se dit, mais on peut aller au cinéma. Chose qui, apparemment, il y avait un film de Jean Rouch, un film de Yoris, un film de Chris Marker, mais bon, documentaire avait pas vraiment décidé d'occuper sa place au cinéma, dans les salles ou dans les modes de financement. En 80, ça n'existe pas. Personne dans une école de cinéma se dit « je vais devenir documentariste » en 1985. Et donc ce qui se met en place, c'est à partir du début des années 90, c'est ça. C'est que Route One USA, bien que produit par la télévision, on va le sortir en salle. C'est que c'est le Pays des Sourds, produit avec l'avance sur recette, ou c'est la moindre des choses? C'est le Pays des Sourds. Début des années 90, on se dit, tiens, on peut aller à l'avance sur recette. Et donc, peu à peu, le documentaire prend sa place dans les territoires des salles et des régions, dans les modes de financement de l'État et dans les régions, et de la part des auteurs, le fait de dire, tiens, je vais faire ce film pour le cinéma et pas pour la télé.
Une folle gaieté régnait pendant nos récréations.
Sauf là, ça va aller.
Non, beaucoup.
Une folle gaieté régnait pendant nos récréations. Et Nathalie?
Oui.
Alors, Olivier aussi?
Oui, monsieur.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais avec tous ces bâtons, Alexandre?
Une moitié des élèves jouait aux billes à l'ombre des arbres. Une moitié des élèves jouait aux billes à l'ombre des arbres.
Non, tu joues pas.
Point. D'autres jouaient au cheval.
Jouer avec vous. Oui, tu peux cracher avec nous.
D'autres jouaient au cheval. On leur aurait pas dit que c'était l'imparfait des fois là. Il y a pas 5 minutes, Julien. C'est ça l'imparfait, un R accent aigu. Ça s'écrit comme ça, la terminaison de l'imparfait.
Allez, lève-toi. Allez, lève-toi.
D'autres jouaient au cheval ou aux autos. Virgule. D'autres jouaient au cheval ou aux autos, virgule. Marchant au pain. Marchant au pain. Marchant au pas dans des montées imaginaires. Point.
Deux des films les plus célèbres issus des films d'ici, hein, ce télescope, grâce à ce montage, notre réalisatrice Somanina, de films qui regardent et écoutent des enfants, en apprentissage du langage, c'était dans Être et Avoir de Nicolas Philibert, en déchaînement de pulsions et établissement de rapports de force dans la cour des récréations de Claire Simon, de façon de vivre ensemble aussi, deux films qui sont sortis en salle de cinéma et qui ont fait les belles heures des spectateurs, se pose, j'imagine, pour un producteur et surtout pour des cinéastes de documentaires, la question pour les financements, précisément, puisqu'il y a les chaînes de télévision, l'avance sur recette, etc. Il faut bien écrire un texte, il faut écrire une sorte de scénario, même alors les chaînes de télévision aiment bien que tout soit écrit et tout soit prévu, et c'est évidemment le contraire de la démarche même de l'approche du réel. Vous avez une belle formule, Richard Coppens, que j'ai retrouvé. Le documentaire, c'est le jazz du cinéma, sauf que voilà, il faut écrire une partition qu'on va jouer ou pas. Comment est-ce que vous vous débrouillez avec ça, Nicolas Philibert?
Il ne s'agit pas d'écrire un scénario, mais plutôt une sorte de note d'intention, quelques pages. J'ai la chance, si j'ose dire, d'être un peu passé entre les gouttes. Et j'ai chaque fois réussi à trouver les financements de mes projets grâce à quelques pages seulement. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si je devais commencer à faire des documentaires aujourd'hui, je suis pas sûr d'y arriver parce que on demande les financeurs, les chaînes demandent aujourd'hui un séquencier, une liste très précise de séquences. Il faut déjà être capable de dire ce qu'il y aura dans le film, quel sera le début, vers quoi on va, etc. Alors que pour moi, il s'agit de... J'ai besoin d'un point de départ. Et je dirais d'un projet, qui est la promesse de quelque chose. C'est ça qui m'importe. Alors je décris, au fond, quel est mon point de départ. Et je ne fais pas mes films à partir d'un vouloir dire. Je dirais, il ne s'agit pas de décliner tout ce que le film va dire, mais au contraire de définir les conditions dans lesquelles je voudrais m'installer quelque part. En effet, il y a cette belle part d'inconnu qui fait la beauté de ce travail qu'on fait. L'autre jour, j'entendais une formule de Julien Green qui m'a énormément plu et que j'ai envie de faire mienne. J'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et ben, je pourrais un peu dire la même chose de mon travail. Je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans.
Marie Dumorin, même question. Ça ressemble à quoi, un scénario, un séquencier d'un de vos films?
Je procède un peu différemment. C'est vrai que j'ai écrit un texte qui ressemble un peu à une histoire. Et c'est grâce à ces textes-là, à chaque fois, que j'ai pu trouver des financements d'ailleurs, et à l'avance notamment. L'idée pour moi, c'est plutôt d'essayer de raconter une histoire avec un mouvement narratif, de fabriquer un cadre assez précis. En espérant bien sûr que le film déraille et échappe. Et à chaque fois, c'est advenu. Dans chacun de mes films, il y a toujours un moment, et c'est là que le film prend vraiment corps. Je pense à la scène de mariage qui finalement n'a pas du tout lieu comme c'est prévu.
Dans Belinda, oui.
Oui, dans Belinda, parce que comme ils ont pas assez d'argent, ils veulent un beau mariage avec des chevaux et une robe blanche et manque de, bon, voilà, un peu sautement, un peu comme dans les films de Chaplin, ils font une espèce de truc invraisemblable qui fait qu'il se retrouve au poste, enfin même en prison d'ailleurs. Ça évidemment c'était pas prévu. Et dans chaque film il y a quelque chose un peu comme ça, dans Je voudrais aimer personne, le film précédent. Tout le film est construit autour du baptême. En général, je trouve un argument narratif comme ça. Et le jour du baptême, il se passe encore quelque chose. C'est-à-dire que comme je ne filme pas du tout, contrairement à Nicolas, finalement, dans l'institution, où l'institution est juste là, un peu autour, pas très loin. Enfin, je pense au directeur de la Nichée qui joue un peu le rôle du coryphée, de figure paternelle. Mais je filme pas du tout l'institution comme espace. Je suis plutôt à la lisière et puis après dehors, hors cadre. Je dois bien m'appuyer sur le ressort romanesque que je projette un peu sur les personnages. Voilà. Enfin, j'espère que ça veut dire quelque chose.
Ma sœur, là, elle était dans votre bureau, elle vous a même pas dit si, oui ou non, si elle veut, si elle veut aller dans un foyer, vous êtes allé lui faire visiter. C'est ça qu'elle n'a pas apprécié.
Elle va me le dire encore aujourd'hui. Moi, c'est pas loin de Colmar non plus, son foyer.
Hein? C'est loin?
Ouais, non, elle prend le train.
Ouais, c'est si elle prend le train, d'accord, mais sans le train à pied, franchement, t'es en... Hé, monsieur! De Célestin jusqu'à Colmar à pied, t'as au moins toute la nuit.
Et puis là, il y a du monde. Hein. Il y a des kidnappeurs éventuellement là.
Ouais. Il n'y a pas des kidnappeurs, mais il y a des grands. Hé, hey, c'est de la glace? Oui. On peut aller glisser?
On n'a pas le temps maintenant.
Ah. Alors, tu te maries?
Oui, je me marie maintenant. Ben écoutez, ça fait 3 ans, mais mon conjoint, il était pas là, si vous voulez, il est en vacances
forcées.
Oui. Donc du coup, c'était prévu qu'on se marie déjà avant, mais on pouvait pas. Et alors, oui. On se marie là.
Je le connais depuis longtemps alors.
Ouais, enfin je le connais. C'est, si vous voulez, vous avez vu ma sœur Sabrina?
Oui.
Son mari.
Oui.
Ah ben c'est le petit frère à son mari.
Ah ben tu n'es pas allé loin alors?
Non, je suis pas allé loin.
Hein? C'est quelqu'un de la famille alors?
Ouais, c'est quelqu'un de la famille. Enfin pas, c'est pas ma famille à moi personnellement. Non, mais bon, c'est vrai que c'est lui qui est venu me chercher.
Ah oui? Et ouais. T'étais d'accord?
La première fois, j'étais pas d'accord. Ah oui, j'étais toujours indépendante, hein.
Et oui.
Alors, parce que vous savez que vous êtes un père pour moi. Hein? Vous savez que vous êtes comme un papa.
Mais je sais, oui.
Vous m'avez quand même élevé.
Et oui.
Et oui.
Et on a souvent discuté ensemble.
Ah oui, on a souvent discuté.
Il y a 15 ans entre les deux parties de ce qu'on vient d'entendre, Marie Dumorat. La première partie vient de votre premier long métrage, Avec ou sans toi, en 2002, et puis la seconde de celui qui est sorti en début d'année, Belinda. Et dans les deux, c'est bien Belinda qu'on a entendu à 9 ans, puis à 23 ans. Ce raccourci temporel, évidemment, ça peut pas s'écrire, quoi. On peut pas savoir quand on va tourner avec ces deux jeunes filles en Alsace, Belinda et sa sœur Sabrina, qu'on va les retrouver d'année en année, et puis qu'on va partir d'un personnage secondaire du film pour finalement raconter son histoire, qu'on va suivre un personnage qui est sorti hors champ du film en disant je vais de l'autre côté des rails et puis vous allez faire la place pour voir ce qu'il y a de l'autre côté des rails, tout ça peut pas s'écrire.
Non, et c'est vrai qu'en commençant, j'ai pas du tout imaginé que ça allait durer et durer encore. Et en fait, j'ai un peu remonté le cours d'une rivière. Ça s'est trouvé un peu comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, mais il s'est trouvé que dans ce territoire-là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était exactement mon territoire de cinéma. Et à chaque fois, un personnage ou une personne m'a happé vers le film suivant. Et si bien que quand j'ai commencé Belinda, j'étais pas certaine d'utiliser des extraits de l'enfance et de l'adolescence. Je voulais pas que ça fasse quelque chose de trop. Bref, je sais pas ce que je voulais d'ailleurs, très exactement en commençant. Et en fait, ça s'est imposé parce que c'est vrai que il y avait en filmant au jour le jour Belinda telle qu'elle était, je retrouvais des expressions de son enfance. Je retrouvais cette espèce de liberté, de volonté de liberté farouche, cette espèce de générosité, de fantaisie, de... Bon, le mot est un peu galvaudé, mais de grâce à mon sens, qu'il y avait déjà dans l'enfance. Et j'ai eu le sentiment que c'était peut-être plus facile pour les gens de se projeter dans ce qu'est Belinda aujourd'hui, son histoire, en passant par l'enfance. Et du coup, il y a des très belles ellipses, du fait de ce qu'elles sont, où on peut reconstruire l'histoire, où on peut trouver sa place, je pense. Parce que c'est vrai que c'est un monde un petit peu à part, qui est pas tellement filmé, ni même en fiction. C'est pas trop dans nos gènes cinématographiques, contrairement aux Anglais. Je pense à Loach, je pense aux Italiens, Rossellini, Pasolini, etc. Je pense à tous ces gens-là, aux Belges, les Dardenne, etc. En France, à part la petite parenthèse du Front Populaire, finalement, on est très peu allé en fiction vers ces zones-là, sauf à militer ou à être très frontal, et c'est formidable, ça. Mais en documentaire, finalement, j'ai le sentiment que aussi c'est un monde un petit peu à part. Et j'avais vraiment envie d'aller m'aventurer dans ce territoire-là. Et en ce moment, ça commence un petit peu à bouger, y compris en fiction. Là, j'ai vu Scheherazade il y a pas longtemps, que je trouvais formidable. Vraiment bien. Et ça fait vraiment plaisir qu'on commence un peu à y aller de ce côté-là. On renoue avec quelque chose de l'humanité et sans perdre de vue le cinéma, ô combien, quoi. Enfin bon, parenthèse.
Je sais pas ce que je voulais, vient de dire Marie Dumorat, Richard Coppens. Votre travail de producteur, c'est de faire croire aux financeurs que vos cinéastes savent où ils vont.
Puis, en même temps, ça a évolué depuis 30 ans. Je pensais à Claire Simon avec Récréation, tout à l'heure, mis confronté avec des extraits de Être et Avoir. Claire Simon n'a jamais écrit de texte. Elle a commencé à filmer. Elle est venue me montrer des éléments qu'elle avait filmés pendant quelques récréations, puisque voilà, elle tournait pendant un quart d'heure, 20 minutes, dans l'école où allait sa fille. Elle se mettait dans un cours de récréation, elle se mettait à la hauteur des enfants, et elle voyait une histoire et elle la filmait. Donc elle m'a montré des rushs, et dans les rushs, il y avait un film absolument extraordinaire que personne n'avait jamais... Enfin, j'avais jamais vu l'enfance comme ça, j'avais jamais vu des histoires qui se développaient aussi fortement, et donc ce qu'on a montré à la chaîne, c'était déjà un pré-montage. Il n'y a pas eu de... Bon, il y a peut-être eu un texte de 2 pages, mais enfin, c'est pas sur du texte que ça s'est fait. Et ça existe encore un petit peu, même si c'est maintenant devenu quasiment impossible de convaincre des financeurs ou des décideurs au niveau de l'État ou au niveau des chaînes uniquement avec des rushs. Il faut écrire, même au développement renforcé qui a été inventé pour ça, c'est-à-dire on peut aller avec des extraits de rush ou un prémontage. Peut-être ça se fait, mais ça fait pour une dizaine de films par an, ce qui est déjà pas mal, mais on est en France au paradis.
Marie Dumorat.
Vas-y.
Moi, je vous souviens, Richard, que j'étais arrivée à Paris, j'étais très jeune, et je voulais faire un film dans le square à côté de chez moi, sur les parents, avec les enfants. Ouais. Oui. Le square Burk est impec. Et que je connaissais absolument personne de ce monde. Et je t'avais repéré, comme ça. Enfin, je savais physiquement à quoi tu ressemblais pour être allée à une projection des films d'ici. Et j'ai cru te reconnaître à un moment dans la rue, je m'étais un peu cachée. Pour aller à ta rencontre en disant voilà, j'ai une idée, c'est de faire un... Et c'était pas du tout toi, je dirais pas qui c'était d'ailleurs, c'était que... Et donc j'en étais pour cette rencontre. Et puis après j'ai rencontré Serge Laloux que je tiens quand même à citer parce que c'est lui qui sait beaucoup, et c'est bien lui. Et en effet l'idée c'était de commencer à raconter, et voilà, j'ai vu quelque chose dans mon square sur les parents qui polissent tout ça, et je voudrais faire un film. Ah ben oui, mais il faut que t'écrives, etc. Voilà,
Et sans ça, sur le travail de producteur, effectivement, mais la première chose c'est que moi je dois être convaincu du projet de film. C'est-à-dire, je vois beaucoup de projets passer. Serge en voit aussi. Enfin, tous les producteurs voient arriver des projets écrits, plus ou moins, etc. Arrivé à un certain point, au bout de la première page, je vois tout de suite où il y a un projet de film. C'est-à-dire, moi, il faut qu'il y ait un projet de cinéma. Je parle de cinéma. Je suis incapable de dire je fais des programmes de télévision. Moi, je fais des films documentaires. C'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'il y a du cinéma? Il y a une époque, je mettais même la barre beaucoup plus haut parce que je pensais que la seule référence était celle qui est expliquée par Michel Léris dans la préface de son livre où il parle de la tauromachie. Il dit quelqu'un qui parle de lui doit éprouver l'ombre de la corne du taureau. Donc je disais un auteur de cinéma documentaire doit éprouver l'ombre de la corne du taureau. Bon, c'est un peu exagéré. Peut-être quand il parle de lui, il doit éprouver l'ombre de la corne du taureau. C'est peut-être un peu littéraire, un peu années 30. Mais bon, ça restait, ça voulait dire qu'il y avait un enjeu. Il y avait un risque, au fond. Le réalisateur accepte de se mettre en risque pour raconter l'histoire qu'il a vue et qu'il veut raconter. Et ça, quand on rencontre ça chez un auteur, chez une auteure, avec ou sans œil, je ne sais pas. Eh bien, là, oui, j'ai envie d'y aller. Et là, j'ai une conviction. Je fais pas des affaires. Bon, il faut sans doute qu'on fasse des affaires et des films de programme pour la télévision, parce que sinon, la société des films d'ici ne tiendra pas. Donc ça, c'est autre chose. C'est une politique d'entreprise. Et aujourd'hui, on en a besoin de développer d'autres types de films. Mais pour les documentaires, disons d'auteurs, ce qui reste quand même le cœur de ce que nous fabriquons, il faut qu'il y ait cette rencontre et que les deux partenaires soient convaincus, c'est-à-dire que l'auteur est convaincu que c'est le bon producteur et que le producteur est convaincu que cet auteur, oui, ça vaut le coup de se battre pour lui. Après, il y a du temps qui passe, donc parfois, on se sépare.
Nicolas Philibert.
Tu évoquais, Richard, la naissance de Récréation. Celle de la vie de Louvre est assez cocasse aussi, assez amusante, parce que à l'origine de ce film, Richard le sait parce que les premiers jours de tournage on était ensemble, c'est un film qui est né presque par hasard. C'était une commande d'une journée. On est allé au Louvre filmer un déplacement d'œuvre assez spectaculaire, et alors que on avait rempli notre mission, si j'ose dire, on a décidé d'y retourner le lendemain. On avait repéré la petite porte, le Louvre était en plein travaux, etc. On avait repéré la petite porte par laquelle les ouvriers se glissaient dans le musée. On est passé tout guiré avec la caméra sur l'épaule. Et on a passé comme ça 3 semaines dans le musée du Louvre à filmer les déplacements d'œuvres, etc. Et tout le monde était persuadé que on avait toutes les autorisations, alors que on n'en avait strictement aucune. Mais le fait qu'on soit là, bref, c'est comme ça que ce film est né, sans aucun texte, sans aucune rencontre ni accord avec un producteur, un coproducteur. Tout ça est venu après, c'est construit au vu des premiers rushs.
Il faut y aller.
Et là, j'étais opérateur, surtout.
Richard Coppens.
Aujourd'hui, c'est inimaginable, une chose pareille.
23. Yes, yes.
Uh-huh.
Well, it's my grandfather's name, and it's my name, too, so I found myself.
No, this can't be you.
No, it can't be me, because it's just because I have the same name.
Oh, that's your father?
My grandfather.
That's your grandfather.
Yeah.
Uh-huh.
Uh-huh. Came from Russia.
Mm-hmm. Came from Russia. Born in Russia. Their parents were born in Russia. Their father was born in Russia.
Does it tell the date when he arrived?
Uh-huh. 1903.
Uh-huh.
He came in 1903.
Je me suis trouvé moi-même, dites-vous Richard Coppens, vous découvrez le nom de votre grand-père, qui est aussi le vôtre dans des registres d'Ellis Island, grâce à une généalogiste afro-américaine. C'est Racine, votre film de 2003, parce que on a parlé du producteur, on a parlé du chef opérateur, mais vous êtes aussi réalisateur, et vous n'êtes pas le seul au film d'ici. Serge Laloux, dont on a beaucoup parlé, est aussi cinéaste. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie Dumora, Nicolas Philibert, que vous avez justement des interlocuteurs qui savent un peu ce que c'est qu'un film, que ce ne sont pas des producteurs complètement coupés de la question artistique, quand vous vous adressez à des producteurs des films d'ici?
Ils sont réalisateurs. Richard est aussi chef opérateur. Il a travaillé sur énormément de films comme technicien. Donc il en connaît un rayon. Mais quand il est producteur, il est producteur. Son désir est là. Il ne cherche pas à faire le film à la place de ceux qu'il produit. Il faut aussi évoquer chez Richard cette collection extraordinaire, c'est architecture. C'est un travail de quoi, 30, 25 ans, 20 ans. Et c'est une collection.
Vous avez fait vous-même votre film sur le Louvre, d'ailleurs.
J'ai fait un film sur le Louvre. Non, on a produit la ville Louvre. Non, je pense que Serge et moi, enfin, ou les autres producteurs aujourd'hui, les plus jeunes, enfin, que ça soit Camille, Valériane, Charlotte, Laura, on prend notre rôle de producteur. On a une certaine, on a une image assez cohérente du travail de producteur. Moi, je la résume, j'ai plusieurs manières de la résumer. Quand je la présente, j'essaye d'expliquer ce que je fais. Je dis le producteur, c'est le mur. Vous savez, à la pelote basque, il y a quelqu'un qui envoie une balle, et puis il y a le mur qui la renvoie. Alors, le producteur, c'est le mur. Et le réalisateur et l'auteur, c'est celui qui envoie, c'est à la fois la balle et celui qui joue avec la balle. Alors, il faut que le mur, il faut qu'il ait des idées, vaut mieux qu'il renvoie la balle dans la bonne direction, donc il est un peu plus subtil qu'un mur absolument qui ne bougerait pas. Mais on a cette fonction-là. Et on a cette fonction qui est de regarder pleinement l'objet qui va être créé, mais de le regarder de travers. L'auteur, il est en face. Et il essaye de le saisir, et c'est un mouvement, et c'est un travail qui se développe dans le temps. Le producteur, il est à côté. Donc, au fond, il regarde pas de la même perspective. Alors, il regarde à la fois la perspective économique et financière, la faisabilité, enfin, toutes sortes de choses comme ça, auxquelles on doit faire particulièrement attention. Mais aussi, il regarde l'objet. Enfin, il regarde le film, comment se développe, comme les premières séquences tournées, et donc, c'est cette confrontation des regards, qui peut aider le réalisateur. En principe, elle est là pour l'aider. Elle n'est pas là pour faire le film à sa place. On n'a jamais eu cette tentation, ni, je crois, cette manière de faire.
Marie Dumorin.
Oui, c'est vrai que je me souviens que le premier film de cette série-là que produisait Serge Lalou. Alors, entre-temps, j'ai quitté les films d'ici, quand même. Et puis après, je suis revenue. Enfin, ils sont coproducteurs. Ils sont jamais très loin. Mais j'ai une relation moins pérenne que celle que Nicolas peut avoir avec les films d'ici. Néanmoins très forte, parce que je travaillais avec Gloria, quoi, enfin bon, bref. Mais ils sont jamais très loin. Et depuis le premier film de cette saga, si je puis dire, c'était au départ pour la télévision, un 52 minutes, comme il se doit, parce qu'il fallait que ce soit des multiples de 12, 24, enfin j'ai remarqué qu'il y avait des chiffres comme ça. Et puis j'ai montré un premier bout à bout avec Catherine Gouze, ma monteuse, et avec Stan Neumann aussi, je sais pas pourquoi je pense à Stan tout à coup qui était pas très loin, que j'aime beaucoup, et qui durait 3 heures. Et là Serge Lalou a dit bon écoute, ça va pas être possible de faire 52, je vais monter au créneau pour un film d'1h30. Bon, ça c'est quand même un petit cadeau de la vie quoi. Donc j'ai pas eu, et je l'ai laissé tranquillement avec quelqu'un, enfin une diffuseur, je sais pas comment on dit, qui s'est avéré très finalement très. Enfin, j'ai un souvenir d'une scène assez éprouvante dans les hauteurs d'une télévision, des locaux d'une télévision avec des longues cigarettes qui se fumaient l'une après l'autre. Une espèce de tension pour moi où je me disais s'il faut couper le film, c'est autant me couper moi, quoi. Et Serge très tranquille qui a eu affaire à une femme. À l'époque, c'était Muriel Rosé qui a été assez formidable sur cette histoire aussi. Bon, voilà, ça, tous les producteurs ne peuvent pas le faire. Puis après, pour aller vers le cinéma, je suis partie, puis je suis revenue, enfin voilà.
Alors le danger de sortir un film en salle, c'est qu'il risque de marcher. Ça a été le cas pour Être et Avoir, et on se souvient de ces 2 millions d'entrées qui ont un peu aiguisé les appétits et qui, d'une certaine manière, signent peut-être la fin d'un âge de l'innocence du documentaire, puisqu'on sait que certains des personnages qui apparaissaient dans le film, ou les parents des enfants, ont attaqué la société de production, et vous, Nicolas Philibert, pour violation du droit à l'image, pour abus... je ne sais pas, contrefaçon et autres, tous ces procès ont été perdus, mais depuis, il y a peut-être une sorte de contrat de confiance tacite entre le filmeur et les filmés, qui a dû se contractualiser. Je me souviens quand vous êtes venu filmer à la Maison de la Radio, Nicolas Philibert, vous faisiez signer des papiers à tous les gens qui apparaissaient d'une manière ou d'une autre dans votre film. Qu'est-ce que ça a impliqué dans la façon de faire du documentaire aujourd'hui, aussi bien du niveau de la production que de la réalisation, Nicolas Philibert?
Alors moi j'ai envie de vous dire qu'en ce qui me concerne, toutes ces mésaventures judiciaires n'ont pas entamé ma façon de faire des films. Mes films sont construits sur des projets de rencontre, sur la rencontre. Et cette histoire s'est soldée par, au fond, raconte que Être et Avoir, c'est quelque part une mauvaise rencontre. Mais voilà, j'ai continué à travailler comme je l'entendais. peut-être que ces procès ont constitué une jurisprudence, hein, et ça a été même très, très important. Parmi toutes ces procédures, il y a eu l'instituteur, mais aussi un graphiste qui avait...
On voit certaines de ses planches dans la classe.
On voit les planches pédagogiques qu'il a dessinées dans la classe. Il nous a attaqué en justice. Il a réclamé 250 000 euros pour ça. Notre avocat, dans un premier temps, n'a pas jugé nécessaire de travailler vraiment. Du coup, on a été condamné en première instance à verser 1 euro symbolique. Lui a fait appel parce qu'il voulait gagner beaucoup plus. Et on a fait appel aussi parce qu'il n'était pas question sur ce point-là de perdre. Sinon, c'était la fin du documentaire. Et on s'est battu pendant des années. On sait que la justice met toujours très longtemps. On s'est battu pendant des années pour gagner ce procès en particulier. Sinon, c'était fini. Antoine, je vous filme le type qui a designé vos lunettes ou votre chemise peut m'attaquer en justice pour contrefaçon. Voilà, c'était extrêmement important pour que tout le monde puisse continuer à faire des documentaires. This is not enough.
Merci Richard Coppens, Marie Dumorat, Nicolas Philibert. On se quitte sur un extrait de la bande originale de Valse avec Bachir d'Harry Folman, encore une production des films d'ici, film précurseur d'un nouveau genre, le documentaire d'animation qui a fait notre bonheur, notamment à Cannes cette année, avec plusieurs films dont le très puissant Samouni Road de Stefano Savona. Génération documentaire, 40 ans de cinéma au film d'ici, c'est au Centre Pompidou jusqu'au 21 décembre dans le cadre de la Cinémathèque du documentaire. Ce week-end, c'est Marie Dumorat qui est à l'honneur avec la projection de ses films et un dialogue demain à 17h avec le cinéaste Guillaume Braque. On peut aussi, bien sûr, y voir des films de Nicolas Philibert. On peut voir surtout en salle, partout en France, avec cette rétrospective de 9 films restaurés. Et puis, bien entendu, votre dernier film, Nicolas Philibert, de chaque instant, depuis le 29 août, que vous accompagnez depuis un peu partout en France. Surveillez vos agendas. Richard Coppens, vous direz tout ce que vous n'avez pas eu le temps de nous dire aujourd'hui. Ça sera lors d'une masterclass avec votre compagnon Serge Laloux, animé par Jean-Michel Frodon. Ce sera le samedi 8 décembre à 17h. On pourra voir ensuite Racine, votre film, et celui de Serge Laloux, Les Carnets de Claire. Récréation, le film magnifique et terrifiant de Claire Simon ressort en salle en version restaurée. Ce sera le 14 novembre, pendant le mois du documentaire. On verra aussi le même mois Route One USA de Robert Kramer, lui aussi en version restaurée. Toutes ces informations grâce à Pascaline Bonnet sur la page Plan Large du site franceculture.fr. Vous êtes bien sur France Culture. Vous écoutez Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma que nous ouvrons enfin au chapitre M comme McCarré, Léo McCarré.
Mrs. Warner, will you step up here and tell me why you persist in regarding the dog as your personal property in order that the court may decide whether or not he's to remain in your possession?
Nothing would please me more. Your Honor, I saw Mr. Smith first. It was in that pet shop on Madison Avenue. You know the one I mean. Oh, you don't? Oh, it's between 47th and 40th. Or is that...
It's frightfully immaterial.
Well, you ought to know. Anyway, I decided to buy Mr. Smith, but I turned away for just a moment to look at a Persian kitten. Do you like cats? I don't either. So I turned right around again, and here was this man holding Mr. Smith in his arms. Pardon me, I said, but I'm buying this puppy. And then he just smiled at me. And then somehow, all of a sudden, the three of us were having lunch together, the man and Mr. Smith and I. And then things began to happen rather swiftly, and finally I said, well, I think we'd better get married, and we did, and that way we were able to give Mr. Smith a better home and live happily ever after. Until now.
I see. Well, in these custody cases, Mrs. Warner, we frequently allow the final decision to rest with the party in question.
You mean Mr. Smith?
Send for the dog. Custody of the dog will depend on his own desires. Mr. Warner, will you step up here, please?
Yes, Your Honor.
Unfasten him. You may each call the dog.
Mrs. Smith.
Schmitty.
Hey, come on.
Schmitty.
Hey, come on.
Schmitty.
Hey.
boy. Look up here. Look, come on, look, fella. It's me. It's me.
Oh, come on.
You know who you are, Vinny.
Come on, boy.
It's his man.
Yeah, come on. Come on, fella.
Look up here.
Come on,
boy.
Don't pay attention to that. Come on, Smith.
Vinny.
Come on, boy.
Look up here.
Come on. Pay attention to that. Come on, Smith.
You know me.
Come on, boy.
You know me.
Come on, fella. Come on, boy. You know Mr.
Qui aura la garde de Mr. Smith, le petit chien très cabot, Lucy ou Jerry Warrimer, Irene Dunne ou Cary Grant? Vous connaîtrez la décision du juge de divorce en allant voir cette sacrée vérité de Léo Macaré à la Cinémathèque française, qui consacre une rétrospective jusqu'au 24 septembre au plus insaisissable, sans doute le plus méconnu des cinéastes classiques hollywoodiens. Charlotte Garçon, vous n'avez pas attendu cette rétrospective pour nous parler de Léo Macaré. Le 23 juin dernier, dans un plan large consacré à Lubitsch, vous nous aviez parlé des deux versions de Elle et lui, toutes deux signées Léo Macaré. Et c'est à nouveau de deux de ces films que vous voulez nous parler aujourd'hui, tous deux réalisés en 1937 et qui montrent bien sans doute l'éclectisme d'un cinéaste qui était aussi à l'aise dans la comédie burlesque avec Laurel et Hardy ou les Marx Brothers, dans la screwball comédie, type comédie du remariage comme Cette sacrée vérité, ou dans le mélodrame le plus grave, Charlotte.
Oui, parce que souvent, on souligne qu'il y a eu une fracture brutale pour les cinéastes et les acteurs entre la période muette et la période parlante. On se souvient dans Chantons sous la pluie des carrières d'acteurs brisées parce qu'ils ont une voix de fausset ou qu'ils ne savent pas, ils savent pas chanter. Et on se souvient aussi de la difficile transition très longue et aussi très riche, mais quand même difficile, vers le parlant de Chaplin. Or, il y a aussi des cinéastes de studio qui ont très très bien réussi ce passage et qui sont aussi brillants quand ils commencent leur carrière dans le muet que ensuite dans le parlant, qui arrivent à tirer le meilleur de ce médium et qui change technologiquement. Et c'est le cas de Léo Macaré, comme son ami Frank Capra d'ailleurs. Il y a vraiment des passerelles entre ces deux cinéastes. Macaré qui a commencé gagman, qui sait vraiment, qui a travaillé ce que c'est que le gag et son rythme et son timing, en inventant une espèce de ce qu'on a appelé le slow burn, c'est-à-dire en ralentissant aussi le gag et en l'étirant sur toute la durée d'un film pendant le muet. Et puis on se souvient que ce serait lui qui aurait apparié, accouplé Laurel et Hardy, qui a décidé que voilà, ces deux ensemble, ça allait créer un couple comique. Et l'idée de couple sera importante ensuite dans son cinéma. On l'entend dans la séquence que vous avez passée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord cette femme qui est en train d'argumenter la garde de son chien comme on le ferait d'un enfant lors de cet entretien pour son divorce au tribunal, et donc elle a une espèce de bagou pas possible, mais en même temps, et ça on ne peut pas l'entendre tout à fait à la radio, elle fait des gestes qui minent son discours et qui vont en fait être plus efficaces que son argumentation. Et là, c'est là où Macaré allie vraiment les deux, c'est-à-dire tout ce qu'il a appris dans le burlesque muet et en même temps le côté très très brillant de l'écriture des dialogue. Et effectivement, il me semble que l'année 1937 est charnière parce que c'est une année où il va présenter deux films dont on se dit c'est pas possible quelque part qu'ils soient faits a priori par le même réalisateur. Donc vous le disiez, Cette sacrée vérité, The Awful Truth. D'abord, cette comédie de remariage, c'est comme un cas d'école, hein, puisqu'il s'agit donc de ces fameuses comédies que Stanley Cavell, le philosophe, a tirées de l'histoire hollywoodienne en disant c'est l'histoire d'un couple qui est marié, mais il va se mettre en crise et puis il va décaper son union à neuf et voir ce qui vraiment le lit, c'est tout à fait ce qui se passe. Et ce couple, Irene Dunne, Cary Grant, d'ailleurs, Macaré va à nouveau le mettre en scène en 42 dans Mon épouse favorite. C'est carrément même plus un divorce, c'est qu'elle est censée être morte et puis elle refait surface. Et d'ailleurs, elle est morte, en fait, elle était sur une île déserte pendant 7 ans avec un beau blond qui était joué par Randolph Scott, colocataire et plus si affinité à la ville de Cary Grant. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc voilà, ce qui est beau dans cette sacrée vérité, qui me semble être vraiment un joyau de toute l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est que du coup ce couple absolument sophistiqué va chacun sortir avec des espèces d'antithèses d'eux-mêmes, un Texan complètement fils à maman pas possible, et puis pour lui une chanteuse de cabaret avec un faux accent du sud. Et c'est important, cette symétrie là, que chacun essaye d'aller voir ailleurs mais de manière symétrique, parce que ce qui marque formellement le cinéma de Macaré, c'est justement des histoires de reprise, de répétition, de mise en parallèle. Et d'ailleurs, D'ailleurs, c'est pas pour rien que Macaré a refait lui-même son propre film de 1939. Vous en parliez, Elle et lui. C'est que reprendre, c'est jamais faire la même chose. Pour lui, c'est toujours travailler à la variation et refaire véritablement à neuf, de même que le couple se redéfinit dans les comédies du remariage.
Stop looking at your watch. We got 5 whole hours. We mustn't even think about the time.
I guess you're right, Mercy.
Well, Bart, I figure that everyone is entitled to just so much happiness in life. Some get it in the beginning, and some in the middle, and others at the end. And then there are those that have it spread thin all through the years.
The trouble is, I was a failure. I suppose you liked me because I knew a couple of jokes that could make you laugh. I was a town clown. But there wasn't much room in the business world, Lucy, for that kind of a fellow.
I won't let you call yourself a failure, Bart. I think I slipped up someplace, though I tried always to be a good wife and mother. But if I'd been all that I thought I was, things would be different now. You don't sow wheat and reap ashes, Bob. Come on, let's get out of here.
We Make Way for Tomorrow, Place aux Jeunes, ce film réalisé donc la même année que Cette Sacrée Vérité. Là, on n'est plus du tout dans un scénario de remariage, mais presque de démariage en quelque sorte. On est à Central Park et ce couple âgé, qui est évidemment ensemble, marié depuis très très longtemps, qui converse sur un banc, va en fait bientôt se séparer, malgré lui, puisque quand le film s'ouvre, ils ont appris à leurs enfants qu'ils sont dépossédés de leur maison hypothéquée et aucun des enfants ne semble avoir la place pour les accueillir tous les deux. Donc, ils doivent partir chacun à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. C'est une sorte de répétition générale de leur mort. On l'entend quand même, il y a quelque chose là d'assez terrible. Et on est donc très loin du luxe enjoué des décors et des costumes un peu intemporels de la comédie loufoque. Mais on est véritablement dans le mélodrame, puisque ce couple n'a plus de chez soi. Et tout au long de ce film, en fait, on a des échanges comme ça très intimes, comme on l'entend, mais à chaque fois dans des endroits publics. Un grand hall d'hôtel, un jardin public, une gare. Et ce qui est beau avec Macaré, c'est qu'il est dans le premier degré du mélodrame et en même temps il s'arrête au bord des larmes. Il y a vraiment toujours une sorte de pudeur, on l'entend dans ses échanges entre Lucy et Barclay. Un sens de la litote, une sorte de délicatesse rythmique qui va aussi lui faire relancer le mouvement alors même qu'on atteint ce espèce de point mort, de point d'inertie maximale. Par exemple, dans le grand hôtel où Lucy et Barclay ont passé leur lune de miel et où ils reviennent à Manhattan, il y a une valse, il se lève pour danser, comme ça, plein de nostalgie, mais paf, l'orchestre se met à jouer un foxtrot et ils n'arrivent pas à suivre. Et tout à coup, le chef d'orchestre les repère dans la foule et repasse à la valse. Et finalement, on a l'impression que cette musique est toujours une façon de faire échapper l'amour à la contingence du moment et à faire aspirer aussi au sublime.
Merci Charlotte, on se quitte sur une autre musique qui sauve, hein, celle très déjantée du tout aussi déjantée, la soupe au canard de Léo Macaré avec les Marx Brothers. La rétrospective qui remporte un grand succès, Léo Macaré à la Cinémathèque Française, c'est jusqu'au 24 septembre et en feu d'artifice final, vous prononcerez ce jour-là, Charlotte Garçon, une conférence sur le grand Cary Grant, ce sera à 14h30, suivi par la projection de Cette Sacrée Vérité. On saura donc enfin qui aura la garde de Mr. Smith. Et puis pour en savoir plus sur les vieilles dames chez Léo Macaré, je renvoie à votre article
dans l'excellent livre collectif sur le cinéaste, coordonné par l'ami Fernando Ganzo aux éditions Capricci. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Julien Calvas. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, on ouvrira l'encyclopédie vivante du cinéma à la lettre B, comme Bresson, Robert Bresson, à l'occasion de la sortie en DVD et en Blu-ray des copies restaurées des Dames du Bois de Boulogne, de Pickpocket et de L'Argent, et puis en salle de celle d'Un condamné à mort s'est échappé et du Journal d'un curé de campagne. Les Dames du Bois de Boulogne sont visibles également en salle. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.